On va déguster. Sur France Inter.
Antoine Gerbel, ça sent le blanc.
Sacré Paris, François-Régis. Paris printanier, un vin à la Clamart, donc si j'ai bien suivi l'émission. Voilà. Ou un prince au petit pois, mais c'est pas un comte d'Andersen dont je vais vous parler, mais plutôt un duc de Bourgogne. Alors, juste petite parenthèse, avec les petits pois, bien évidemment, un blanc sec, un blanc printanier. Derrière ce terme, on vous imaginez des arômes très légers, plutôt floraux, un petit peu fruités, mais quelque chose d'assez discret. Alors, on pourrait parler d'un petit chardonnay du nord de la Bourgogne, un sylvaner alsacien, un pinot blanc, pas trop mûr, mais je vais vous parler du prince Ali Gauté. Le prince, parce que j'ai envie de le mettre sur un piédestal, ce cépage bourguignon complètement oublié. Alors, l'Ali Gauté est à la base de l'ancêtre du Spritz. Quel est l'ancêtre du Spritz? C'est difficile à dire. Arnaud, François-Régis?
L'ancêtre du Spritz.
Le kir, voyons.
Mais bien sûr, la boisson du chanoine.
Cet apéritif qui était dans toutes les tables françaises. On ne débutait pas un repas après-guerre sans un kir.
Vous nous en rappelez la définition, Antoine?
Le chanoine, qui était donc un ecclésiaste élu de Dijon et qui prenait un petit vin blanc des pourtours de Dijon, qui était principalement de la ligotée, et il mélangeait avec de la crème de cassis. Mais comme souvent dans les mariages, on a un qui tire toujours un peu la couverture à lui, et c'est surtout le cassis qu'on a retenu dans le kir. Un blanc n'importe lequel est devenu un blanc cassis, et c'est le kir. Or malheureusement, la ligotée, il était très répandu avant le phylloxéra en Bourgogne. On en trouvait autant que du chardonnay. Et puis, quand est arrivé le phylloxéra, quand il a fallu replanter après-guerre, on a préféré mettre du chardonnay qui était un petit peu plus noble, qui pouvait aussi produire pas mal, mais un peu moins que la ligotée, parce que la ligotée produit énormément. Et on a délaissé. Et puis, il y a des petites taches d'aligotée qui sont restées,
des poches de résistance
dans certains coins où les vignerons, surtout, buvaient leur vin. Donc, ils avaient une envie de boire un vin frais. Et là, on revient sur quelque chose que je conteste avec Arnaud Naguin, c'est qu'il faut de la saisonnalité dans les vins. On ouvre le printemps, l'été arrive, et ben on laisse dans sa cave ces belles bouteilles qu'il faut garder, qu'il faut laisser aménager, vieillir. Le printemps est fait pour les primeurs, dans le vin aussi. Et ça me permet de réhabiliter aussi le Gamay en Beaujolais, puisque le Gamay primeur qui a été sali avec ce Beaujolais primeur du mois de novembre est un fantastique vin, le Gamay de Pâques. Et la ligotée, c'est aussi le premier vin qui sortait de la cave. Alors la ligotée, je vous ai servi trois vins. Alors là, je suis ambitieux, je vous ai servi trois verres d'aligoté pour simplement vous raconter que ce cépage qu'on a décrié parce qu'il était un peu insipide, un peu acide, pas très intéressant, en fin de compte, aujourd'hui, il y a une bande de vignerons qui ont gardé leur vieux cépage sur des territoires adaptés et très différents. Donc là, vous avez une trilogie dans le verre. On commence avec un premier aligoté qui vient de la côte chalonnaise, petit territoire un peu oublié qui commence à sortir, la côte chalonnaise, Rully, Mercurey, c'est les crus qui commencent à parler. Et puis on fait aussi beaucoup de Bourgogne. Le Bourgogne aligoté, c'est une tradition. Le premier vin qu'on vous sert, il est de 2017, jeune. Il s'appelle Enrato, ça veut dire que simplement, c'est une mention de terroir, donc il pourrait être un climat, comme on dit en Bourgogne. C'est simplement un domaine qui fait 5 hectares et demi, qui fait du Mercurey et qui fait son petit blanc. C'est très simple, c'est vinifié quand même en fût. Mm-hmm. Là aussi, il y a plein d'a priori, vous savez, sur la ligotée, ça vieillit pas. Moi, j'ai goûté des ligotées de 25 ans qui étaient merveilleux. Bon, ils étaient nés à un morceau, certes. La ligotée aussi, on dit qu'il n'y a pas de grand cru. Faux, avant, Corton Charlemagne avait de la ligotée à place du chardonnay. Et après, on dit aussi que la ligotée ne s'élève pas dans des beaux fûts bourguignons en chêne, mais plutôt en inox pour garder ce côté un peu printanier vert. Fou encore une fois, parce que quand il est bien né, on garde cette subtilité qu'on a dans cette aligotée. Alors, le premier aligoté, pour moi, c'est l'expression fraîche, simple, on va dire un peu directe, un peu moderne aussi. Mmh. C'est la maison Gouffier.
Oui.
Ça coûte entre 9 et 10 euros.
Et c'est bon.
Et c'est bon, et nos petits pois là, moi j'aime bien les petits pois, peut-être un jus de veau peut-être.
Ah, ça y est. On attend une émission végétale qui nous casse la baraque.
Carnivore qui déborde, mais voilà. Bon. Ou à l'apéritif, et bien évidemment avec tous ces légumes verts, mais cuits, hein, parce qu'il y a aussi, on parle de légumes, association vin et légumes, mais il faut penser quand même à la cuisson, parce que quand on parle de salade, choses comme ça, le rapport avec le vin est quand même beaucoup plus compliqué. Le deuxième aligoté.
Il a bien fait les choses, hein. Numéro 2.
Numéro 2, vous avez vu sur un premier.
Mais drivé comme deuxième verre.
Toujours aligoté. Et alors là, on s'en va chez une vigneronne que j'apprécie particulièrement. Je crois que j'ai déjà évoqué ses vins. C'est Claire Naudan, c'est le domaine Naudan-Ferrand.
Vous êtes amoureux peut-être ?
de ces vins, assurément. On est là sur un territoire historique d'Aligoté, ce qu'on appelle les hautes côtes de Beaune-Bresse, c'est la belle Côte d'Or. Et puis quand vous prenez les combes qui s'en vont de différents villages, là on quitte Gevrey ou Nuits et on monte sur les hautes côtes de Nuits. Et on est sur le village de Magny-les-Villers. Elle a la réputation d'être le berceau historique de l'Aligoté. Il en reste. Et elle en fait plusieurs, elle en fait trois même. Son premier vin, je trouve magnifique. Parce que à l'aveugle, là, les copains, si j'ai envie de leur dire, tiens, qu'est-ce que c'est? On est plutôt à Chassagne, à Pligny ou à Meursault? Et alors là, on peut discuter des heures, il n'y en a pas un qui me dira, on est dans les Hautes-Côtes et on boit de l'Aligoté. C'est son 2015, ça coûte un tout petit peu plus cher, c'est entre 12 et 14 euros. Elle travaille en naturel, elle travaille en bio, c'est vendangé quand même à la machine parce que il faut quand même tirer un peu les prix. La machine permet aussi de faire des prix plutôt sages et ça se boit tout seul aussi. C'est un 2016, donc vous voyez un vin qui avance. Le dernier vin, les frères Chapuis, alors eux c'est les Flying Winemakers, ils achètent des raisins, ils ont travaillé chez des tout bons, chez les Pas-Calais notamment, et là c'est leur, moi j'aime beaucoup, alors là c'est sans soufre, donc il faut ouvrir la ligoté, et il faut lui mettre carrément en carafe, pendant une bonne heure, le secouer, et là vous allez encore avoir de la chair, ça s'exprime très très bien. Et alors ça me permet de faire un lien, puisque la ligoté des frères Chapuis, ils ont fait leur classe 1, a fait ses classes chez Philippe Pas-Calais. Philippe Pas-Calais est un grand monsieur des vins nature, qui a sorti lui aussi un aligoté effervescent, magnifique, qui arrive sur le marché en mai, ça s'appelle Bulle, ça coûte 22 euros, tout le prix des mauvais champagnes, mais c'est bien, bien meilleur. Et je termine ces chroniques sur un petit livre qui vient de sortir, ça s'appelle Plaidoyer pour le vin naturel, signé Éric Morin, un avocat, un pénaliste qui s'est passionné, et surtout à côté de ses grands procès, il répare, il soigne, il défend les vignerons naturels qui ont des problèmes avec les institutions, surtout l'INAO.
C'est un boulot formidable.
On leur défend souvent de faire simplement du bon vin. Et il faut lire ce petit manuel, Plaidoyer pour le vin naturel, c'est Éric Morin. C'est chez Nourriture Fou, ça coûte 14 euros.